Parce qu'on est en train de quitter un système qui a bien marché pendant 150 ans.
Alors, on est en train de le quitter.
Quelle est la magie noire derrière ça? Parce que moi, on m'avait juré que le dollar avait perdu de la valeur sur un siècle.
On a émis énormément de dollars. Donc, il y a une masse de dollars absolument épouvantable qui a été émise dans les marchés obligataires. Et c'était excellent au début. J'ai besoin d'argent. J'ai plus d'or, bah, c'est quoi, je vais refaire des tampons. Et puis voilà, sur inflation, effondrement de la monnaie.
Didier Darcé, bonjour, merci d'être avec nous sur Grand Angle Éco. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va retourner des cerveaux. Le dollar n'a pas perdu de valeur sur 150 ans, il est as good as gold.
As good as oil.
As good as oil, pardon.
Il est aussi as good as gold.
Parce qu'on a la relation entre les
la
trois.
La relation entre
as good as gold, as oil.
On va aller un peu plus loin.
Quelle est la magie noire derrière ça? Parce que moi, on m'avait juré que le dollar avait perdu de la valeur sur un siècle et demi.
Oui, mais parce que les gens regardent le fait que si tu démarres à 1, par exemple, la valeur du pétrole en 1900, le pétrole aujourd'hui, il vaut 100. Dollars. Donc tu dis, la contre-valeur du dollar, aujourd'hui il faut 100 dollars pour acheter...
Je devrais en avoir 100
Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'en fait, mon dollar s'est complètement déprécié, quoi. Si j'avais gardé juste mon dollar depuis en 1900, aujourd'hui je pourrais acheter que 1 centième de mon
du coup,
pétrole.
Je me suis fait couillonner.
Donc du coup, c'est affreux, c'est déprécié, quoi.
Et toi tu dis, non, je vais vous expliquer.
Alors bien sûr, parce que si tu avais un dollar en 1900, et tu t'es dit, j'achèterai du pétrole en 2023. Mais qu'est-ce que tu aurais fait de ton dollar? Tu l'aurais pas mis dans une boîte. Tu l'aurais mis en dépôt quelque part. Ou tu aurais acheté des bons du trésor, ou tu l'aurais mis en dépôt dans une banque. Donc tu aurais eu des petits taux d'intérêt tous les mois pendant 150 ans. Et quand tu remets tes petits taux d'intérêt pendant 150 ans, qu'est-ce que tu as? Tu n'as plus un aujourd'hui. Tu as 100, exactement comme le pétrole. La différence est de quelques pourcents. Donc ça veut dire que c'est extraordinaire. Les deux ont été multipliés par 100. Mais en fait, ils ont tous les deux la même valeur. De façon relative, c'est exactement la même chose. Donc, ça te dit bien que le système financier ajuste. Alors, on a l'impression, les banques centrales changent les taux d'intérêt, etc., etc. Et puis, la variation de change du cours du pétrole, etc. Mais au bout d'un siècle, un peu plus d'un siècle, c'est la même valeur. Donc, ça veut dire que fondamentalement, le marché financier s'ajuste à quelque chose qui est réel, qui est physique, qui est le prix de l'énergie primaire. Donc, la monnaie, c'est la contre-valeur de l'énergie primaire.
Oui, mais tu avais déjà dit ça pour l'or.
Oui, et d'ailleurs, absolument.
Ça fait un peu redite.
Alors, effectivement, alors évidemment, ce n'est pas deux droites parfaites, hein, parce qu'on sait que le pétrole, ça bouge quand même. Hein. Donc, il y a des oscillations entre le pétrole et le dollar capitalisé. Donc, il y a des cycles, des oscillations comme ça. Alors, ces oscillations peuvent être assez méchantes. Hein, ça peut quand même diverger de 50%, de plus, de etc. Bon. Mais... Si tu mets sur le même graphe l'or, tu te rends compte que le cycle de l'or est très proche du cycle du pétrole. Il n'est pas proche du cycle de la monnaie. Donc, or et pétrole, ce sont quasiment les mêmes trucs qui oscillent, dont la porteuse générale est le dollar, si tu inclus les taux d'intérêt.
Et du coup, ça amène à une autre réflexion. Du coup, on se dit, alors la première chose, c'est que c'est choquant parce qu'on m'avait dit que le dollar, c'était fini et que ça marchait pas. Donc, en fait, ça marche.
Ben oui, bien sûr. Voilà.
Du coup, pourquoi tuer le dollar si ça marche? Pourquoi se dédollariser si ça marche?
C'est-à-dire que...
Si c'est un bon étalon de la valeur.
Mais si c'est un bon étalon de la valeur, on n'a aucune raison de ne pas l'avoir. C'est beaucoup plus pratique de s'échanger des billets ou de s'envoyer des dollars par virement que de trimballer des sacs d'or.
Donc on vend tout notre or dans le portefeuille et on achète des bonds à la Fed en dollars?
Ah surtout pas.
Parce que c'est pareil, mais c'est quand même différent.
Alors, j'ai quand même dit ainsi. C'est-à-dire que si la monnaie est bien gérée, à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt. Mais la monnaie est bien gérée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux d'intérêt est correct. Donc ce taux d'intérêt dépend évidemment de la masse de la monnaie que tu as émise la rémunération de la monnaie dépend de la masse que tu as émise et puis du taux surtout d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont insuffisants, qu'est-ce qui se passe? Alors disons que structurellement, l'or, le pétrole ou l'or monte comme ça. Si tes taux d'intérêt sont trop faibles, t'as un problème. Hein. Ça veut dire que ta monnaie ne représente plus la contre-valeur de l'énergie. Donc, quand un gouvernement, une banque centrale joue avec les taux d'intérêt, elle joue avec quelque chose de fondamental, qui est la confiance qu'on peut avoir dans cette monnaie pour représenter bien quelque chose de physiquement réel qui est l'énergie dont tu as besoin pour ton activité économique.
Donc là, tu es en train de nous dire en gros que cette constance sur 150 ans, elle diverge et que diverge, c'est beaucoup.
C'est ça. C'est
ça. Parce qu'on est en train de quitter un système qui a bien marché pendant 150 ans.
Alors, on est en train de le quitter tout simplement parce que c'est pas lié simplement au taux d'intérêt de la monnaie. C'est qu'on a émis énormément de dollars. Donc, il y a une masse de dollars absolument épouvantable qui a été émise dans les marchés obligataires, qui correspond à une dette gigantesque qui est créée. Donc, on a tout d'un coup quelque chose dans lequel on a un stock, si tu veux, et même un flux, mais un stock de valeurs physiques réelles qui a une certaine dimension. Et en contre-valeur, on a émis du papier de façon exponentielle.
Au lieu de régler les taux.
Au lieu de régler les taux. Alors, si on regarde par exemple la dette américaine dans les 18 prochains mois, les États-Unis ont un déficit des comptes courants, un déficit budgétaire de plus de 7%. C'est énorme en période de croissance. Normalement, en période de croissance, on n'a pas de déficit budgétaire.
Ça fait quoi ? Ça fait un millier de milliards par an, ça ?
Alors, un déficit budgétaire, eux, ils sont à peu près à 23 milliers de milliards. Donc, si tu fais 7%, ça fait combien, je sais pas, 10% ce serait
2000.
Donc, 2300. Et en plus, ils ont un déficit des comptes extérieurs de l'ordre de 5 et quelques pourcents. Donc, en fait, ils vont perdre en gros 11-12% de leur PNB par an. Sur 18 mois, ça te fait 4000 milliards. 4000 milliards à trouver.
C'est beaucoup.
Dans le rythme actuel de financement de leur économie, qui veut dire financement de leur effort de guerre, effort militaire, social, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas cet argent. Et ils avaient l'habitude de le recevoir de l'étranger, mais si l'étranger ne leur donne plus cet argent, il y a un problème.
Qui c'est qui disait comment vous êtes appauvri, très lentement au début et très vite à la fin.
C'est Charles qui dit ça, mais il citait je ne sais plus qui.
Un mec qui passait au tribunal devant le juge. Monsieur, comment vous êtes-vous appauvri? Très lentement au début et puis à la fin très vite. En fait, c'est ça qu'on est en train de dire.
Ce qu'on est en train de dire, c'est que le pétrole, la monnaie a quelque chose qui est fondamentalement lié à une notion physique, qui est l'énergie primaire, mais aussi à l'or, qui est la représentation de cette énergie primaire. Et quand on commence à diverger de ça, on a un problème. C'est-à-dire quand on commence à diverger en disant « c'est très facile d'imprimer du papier, et puis ça m'arrangerait bien, comme ça je pourrais payer mes fonctionnaires, ou faire des relances, ou me faire une armée formidable », et ben on sait qu'on diverge d'une réalité, et donc on a un problème, c'est que l'argent n'est pas une valeur. Tant que l'argent est une valeur, tout va bien, la confiance est là. Quand l'argent est mis, qu'il y a trop d'argent émis, eh bien ça n'est plus une confiance et ça s'effondre. Donc je me suis amusé à faire un petit calcul. Je me suis dit, bon, je vais m'intéresse pas aux actions, aux choses compliquées, là, les actions, je m'intéresse pas, je regarde que la monnaie à partir de soit un dépôt, donc je prends mes dollars, je le mets en dépôt bancaire ou j'achète des bons du trésor américain à moi, ou alors j'achète du pétrole. Voilà. Alors je peux l'acheter par le marché des futurs, ou bon, j'achète du pétrole. Et puis je me dis, comment est-ce que je vais décider quelle est la bonne monnaie ce mois-ci? Parce que je dis que c'est la même chose. Oui, mais ça oscille l'un par rapport à l'autre. Donc, il y a bien des moments où l'une est meilleure que l'autre. Alors, j'ai fait un modèle très sophistiqué. Ça m'a pris longtemps à le trouver. J'ai dit, je vais simplement suivre celui qui était le meilleur le mois précédent. Effet d'inertie. Donc, voilà. Donc, si le pétrole, dans le mois, a gagné plus que les dépôts bancaires, j'achète du pétrole. Et s'il continue à gagner plus, je continue à acheter. Puis, le mois où il gagne moins, je repasse en cash. Et puis je fais ça là, doum, depuis la nuit des temps. C'est-à-dire depuis plus de 100 ans. Eh ben ça gagne plus que le S&P ce truc-là, plus que le marché des actions.
Et la volatilité, elle est comment?
La volatilité est assez forte aussi dans les moments, etc. Mais elle est moins forte que le marché des actions.
Ah quand même.
Elle est moins forte que le marché des actions. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est de dire que finalement, dans la création de valeur, vous avez des centaines de milliers de gens qui bosse pour analyser toutes les sociétés, les actions, et on se dit que la seule façon de gagner de l'argent, c'est de prendre du levier ou de choisir les bons stocks, de faire du stock picking, d'acheter des actions qui vont monter en flèche, etc. Mais vous vous rendez compte que la monnaie, qui est normalement le truc qui n'intéresse personne, quand vous êtes dans un comité d'investissement, la première chose, c'est quelles actions, quelles obligations, etc., etc. Immobilier, private equity, puis à la fin, on dit, à propos, la monnaie, qu'est-ce qu'on fait là avec la monnaie? La monnaie, on ne sait pas, donc on prend la monnaie du pays. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, on se rend compte qu'en fait, il y a une possibilité et de création ou de destruction de valeur qui est considérable, sur le fait de gérer sa monnaie.
C'est pour cela que nous vous accompagnons dans ma lettre d'investissement que je corrédige avec Didier Darcet pour préserver votre patrimoine et le développer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas se tromper. Nous vous expliquons comment débancariser votre épargne de l'Union Européenne, comment vous construire des portefeuilles financiers qui préservent ou développent votre épargne. Et enfin, on vous donne des opportunités pour investir dans le private equity ou autre façon de faire du crowdlending dans des secteurs bien réels de l'économie. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description.
Alors je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, acheter, vendre, acheter le pétrole. Pas forcément, mais un hedge fund pourrait s'amuser à faire un truc comme ça, mais on peut le sophistiquer plus quand même que ça. Hein. Mais c'est juste pour montrer que ce truc-là est capable de gagner presque 11% par an pendant 150 ans. Alors que le S&P, ou 10-80, ou presque comme ça, alors que le S&P gagne 1% de moins, 9 et quelques.
Oui, ça veut dire que c'est pas très bien arbitré, ça. Et globalement, moi, ce que je suis en train de me dire quand j'entends ça, c'est que l'or conserve aussi la valeur sur 150 ans.
Oui, complètement.
Pourquoi, à un moment, sur les marchés financiers, on a eu le besoin de créer le dollar, si ça marche avec l'or, et de détacher le capital du coupon? Pourquoi on a cette séparation qui s'opère? Quel rôle ça remplit dans le système financier? Parce que si ça a émergé, c'est que ça doit bien avoir une utilité.
Oui, bah, l'utilité, c'est la capacité de jouer sur ses taux d'intérêt. Donc, ça veut dire de jouer sur la valeur du temps dont le capitalisme a besoin. C'est-à-dire que si tu as on a parlé d'ailleurs dans la présentation de Surfing Bitcoin. C'est-à-dire que si tu as un système dans lequel l'épargne se place en or, c'est une thésaurisation. C'est-à-dire que tu prends ton or, tu le mets dans une boîte, dans le fond du jardin.
Dans un trou.
Et puis reste là. Et tu dis, j'en aurais bien besoin à ma retraite. Donc je vais mettre une petite pépite d'or régulièrement. Puis à la retraite, je les recrache
doucement.
Mais tu te rends compte que cet or, si tu as la chance d'avoir ta retraite à, disons, à 60 ou 65 ans, et que tu as démarré à 25 ans, pendant 40 ans, l'accumulation de cet or n'a pas servi à l'économie. Il a été immobilisé, thésaurisé. C'est quand même dommage.
T'as un effondrement de la volatilité.
T'as un effondrement
de la vélocité.
De la vélocité. C'est qu'en fait, cet argent aurait pu être utilisé par quelqu'un, par exemple de plus jeune que toi, qui avait une super idée pour monter un business extraordinaire, mais qui n'a pas les fonds. Et donc, on te dit, ben, vous savez quoi? On va vous mettre un dollar à la place de votre or, et puis on va lui attacher un taux d'intérêt. Et selon la qualité du projet de cet ami qui veut faire quelque chose, eh ben, tu vas lui dire que son taux d'intérêt, il est 2% ou il est 15%. Si son projet est très bien, tu vas lui dire 2. S'il est un peu pourri, tu vas lui dire 15. Et donc, tu as tout à fait un système capitaliste qui peut commencer à pricer, à donner un prix au risque, à la qualité des projets économiques. C'est exactement ce qui se produit. Et donc, tu as une allocation du capital qui est super bien faite. Et donc, ceux qui se débrouillent mal, eh ben, ils ont leur taux d'intérêt de financement qui monte jusqu'au moment où ils font faillite et on les remplace. Et donc, tu as une allocation de capital qui est vachement bien faite. Alors que dans l'histoire de la thésaurisation, tu as une allocation de capital qui est très, très, très mal optimisé. Donc, le capitalisme bénéficie de ça. Mais ça marche.
Le système fiat. C'est-à-dire, le système fiat est là pour optimiser, justement, l'emploi des capitaux.
À condition qu'il soit géré correctement, c'est-à-dire que les taux d'intérêt soient corrects.
Qu'il n'y ait pas de débasement,
c'est-à-dire qu'il n'y ait pas exactement tout ce qu'on dit, les États. Ce qui a été dès l'origine, hein, puisque les premiers papiers monnaie, c'est en Chine, en l'an 1000. Ensuite, ça a été la dynastie.
Et 15 jours plus tard, ils ont été bidouillés.
Alors, c'était des papiers dans lesquels ils dessinaient des coins en or dessus, et puis il y avait le scribe qui mettait son nom, qui signait, et puis enfin il y avait le tampon du Han, et ça voulait dire c'est du papier monnaie, parce que je vous ai montré l'image, et il était écrit dessus: celui qui n'accepte pas, là on est au 13-14e siècle, celui qui n'accepte pas ce papier en contre pour être payé, je lui coupe la tête, moi le grand chef des Han. Donc c'était une obligation d'utiliser ce papier, donc c'était une façon de forcer tout le monde
et il
à
était
faire
accepté,
un système
du coup.
Et c'était excellent au début, jusqu'au moment où il s'est dit, bah, comme tout le monde, ah bah tiens, je fais beaucoup de guerres, ça me coûte très cher, parce que ce qui coûte le plus cher à une économie, c'est les guerres. C'est toujours comme ça que les civilisations s'effondrent. J'ai besoin d'argent, j'ai plus d'or, bah, vous savez quoi, je vais refaire des tampons, hein, comme ça. Et puis voilà, surinflation, effondrement de la monnaie, encore une fois, toujours la même histoire.
Eh ben, merci beaucoup Didier, parce que c'est un éclairage qui nous permet de comprendre que la monnaie, pour transporter la valeur, il y a plusieurs véhicules, et que du coup, en fonction de ce qu'on cherche à faire, c'est plus ou moins efficient.
C'est un éclairage par une lampe à pétrole.
Voilà.
Voilà.
Merci beaucoup.
Bonne journée.